Alors, avant d'aller en Russie pour parler de ce Airbus 321 là, qui a réussi un superbe atterrissage d'urgence dans le champ de maïs, on va parler de cet avion Cessna qui a atterri d'urgence sur l'autoroute 20 près de Saint-Jean-Port-Joli plus tôt ce matin vers 11h15. Et pour en discuter, on va aller rejoindre Jean Lapointe, pilote pendant de nombreuses années, expert en aviation. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Bernard.
D'abord, atterrir sur une autoroute, là, ça a beau être un petit Cessna. Je veux te dire, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que le pilote a connu une panne mécanique, puis il a réussi à atterrir, pas de problème, aucun blessé, il y avait trois occupants à bord du Cessna. Mais je vais te dire une chose, atterrir sur une autoroute, là, faut que ton timing soit bon, parce que tu veux pas te retrouver avec une voiture qui vient de jouer d'impact, comme on dit, là.
Oui, ou un 53 pieds, et aussi pas de lignes électriques là qui sont sur le côté de l'autoroute ou de la voie de circulation. Donc, la météo était bonne aujourd'hui, donc le pilote a peut-être été capable là, justement de planifier ça. Est-ce une panne mécanique complète ou est-ce un atterrissage de précaution parce qu'il savait que son moteur allait flancher? Il faudra voir, mais de toute façon, c'est toujours préférable pour un pilote là, de se poser sur une surface dure que dans un champ. Alors, je pense que juste à vue d'oiseau comme ça, les décisions qu'il a prises ce matin, ça sont avérées les meilleures.
Je vais te dire, par contre, hein, tu t'approches, puis là, il faut que tu identifies un tronçon où il n'y a pas deux voitures trop collées. T'espères qu'il n'y en a pas une qui va accélérer, puis là, tu es syncope.
Ben en fait, Bernard, ça revient à ce que j'ai entendu tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'accident du mois d'août sur l'autoroute 640, lorsque ce spécialiste du transport disait qu'il fallait être prévoyant, il fallait anticiper, il fallait avoir la tête toujours prête en cas de panne, et c'est ce que les pilotes font. Et on est entraîné justement que s'il y arrive quelque chose, on ne soit pas pris de surprise, mais qu'on soit capable justement de planifier. Demain, probablement que j'aurai la chance de descendre à Rimouski en monomoteur et aux 5 ou 10 minutes, là, malgré l'altitude, je serai toujours en position de savoir qu'est-ce que je fais s'il y a un ennui mécanique.
Alors, parlons donc de cet avion, banlieue de Moscou. Écoute, là, le pilote, évidemment, est considéré comme un héros par les Russes parce que il a sauvé la vie à 233 personnes. Là, il y a eu une vingtaine de blessés, mais c'est des blessés légers. D'abord, le fait qu'il décide d'atterrir dans un champ de maïs sans son train d'atterrissage, est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous êtes entraîné? C'est-à-dire, il faut décider parfois sur certaines surfaces, il vaut mieux ne pas sortir le train d'atterrissage?
Bien, en fait, je pense que la question, ce n'est même pas posée ce matin là pour le commandant et son premier officier, parce que dès le décollage, un des moteurs aurait arrêté de fonctionner, puis on peut voir, selon la vidéo, que le deuxième moteur commence à avoir dératé. Alors, je pense que l'avion n'a pas gagné beaucoup d'altitude et donc avait quand même une vitesse avant suffisante, le train d'atterrissage rentré et les volets derrière les ailes donnaient le maximum de portance, mais je pense que l'accident s'est produit tellement rapidement après le décollage que cet atterrissage devant avec les roues rentrées là, s'est imposé. En fait, ce que le pilote, le commandant de bord, devait faire, et c'est ce qu'il a fait, il a volé son avion, il l'a navigué vers un endroit qu'il pensait sécuritaire. De toute façon, il n'avait pas vraiment le choix d'aller ailleurs parce qu'il était dans une position impossible pour lui de gagner de l'altitude sans motorisation. Alors, je pense qu'ils ont réagi très rapidement et malgré tout, ce n'est quand même pas quelque chose pour lequel on s'entraîne parce que une panne complète de puissance là, sur un bimoteur avec des avions de ligne tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est extrêmement rarissime.
C'est rare de perdre les deux moteurs en même temps, c'est ce que vous
dites.
Ah
oui, et l'exemple de ça, Bernard, c'est que aujourd'hui, on traverse l'océan Atlantique depuis une vingtaine d'années, alors que dans le passé, ce n'était réservé qu'aux avions à trois moteurs ou aux quatre moteurs. Alors, les statistiques prouvent aujourd'hui aux avionneurs et aux sociétés aériennes et les régulateurs qu'une panne simultanée là, de deux moteurs Ça ne devrait pas arriver. Alors aujourd'hui, c'est arrivé, oui, parce que l'avion s'est fait frapper par des oiseaux.
Oui.
Dans le passé, il y a eu, bon, panne d'essence, on n'a qu'à se souvenir d'Air Transat, le vol 236 en 2001, mais il y a eu des cendres aussi. Le plus spectaculaire, sans vouloir m'éloigner du sujet, est arrivé en 1982, où un Boeing 747 de la British Airways, qui était en route vers l'Australie, a rentré dans de la fumée de volcan et les quatre moteurs se sont arrêtés coup sur coup. Le commandant Moody, qui pour nous est quand même une vedette, là, même si c'est arrivé il y a très longtemps, a gardé son calme, a fait planer l'avion, parce que les avions planent même si les moteurs arrêtent, et ont été capables de les repartir. Et donc, pour l'industrie du transport aérien, par la suite, là, lorsqu'on mentionnait volcan en éruption, c'est devenu quelque chose de très surveillé. Puis, souvenons-nous que il y a eu un volcan, je pense, c'était en 2010, au-dessus de l'Islande, qui a paralysé le trafic aérien au-dessus de l'Atlantique.
Oui.
Et je pense qu'on avait dû annuler près de 100 000 vols et incommoder 10 millions de passagers. Alors ça, c'est un des éléments, la cendre de volcan, panne de carburant, des oiseaux qui frappent les moteurs, ou le seul accident que je connaisse où le dégivrage avait mal été fait, c'était en Scandinavie en 1991, où on n'avait pas enlevé complètement la glace de sur les ailes d'un MD-81, puis le commandant Rasmussen avait perdu ses deux moteurs à 3200 pieds, un peu comme aujourd'hui, et était atterri directement devant lui, sauvant la vie de tout le monde. Mais aujourd'hui, là, je pense que dans tous ces accidents-là où on relève une panne complète de motorisation, les pilotes russes étaient confrontés au pire des scénarios parce que c'est eux qui n'avaient pas d'altitude, ils n'étaient même pas rendus à 1000 pieds. Alors, heureusement, ils avaient de la bonne vitesse avant.
On peut penser, je ne suis pas un expert, là, mais on peut penser que dans ces cas extrêmes, l'élément clé, ça a été le sang-froid. Prendre la bonne décision en très, très peu de temps pour la prendre. Là. Est-ce qu'à l'intérieur de la communauté des pilotes, puis vous, ça fait quand même un certain temps, là, Jean, que vous êtes pilote, là, est-ce qu'il y a des écrasements d'avions dont vous savez que si le pilote avait pris les bonnes décisions, l'écrasement ne se serait pas produit? T'sais, on ne sait pas, nous autres, nécessairement, les simples civils, là, mais vous, à l'interne, là, entre vous, les pilotes, vous en parlez, là.
Ben, c'est bien connu, Bernard. Ça se joue plutôt dans la petite aviation et non au niveau des grandes sociétés aériennes. Mais oui, malheureusement, il y a eu plusieurs accidents. Même à mes débuts de carrière, en 1978, United Airlines avait eu un DC-8 où le commandant de bord ne voulait pas se poser malgré le bon vouloir de ses deux autres pilotes et s'est écrasé au bout de son carburant. Et oui, tous les rapports le donnent à chaque année, dans quelques niveaux que ce soit, mais pas souvent au niveau professionnel. Il y a des accidents qui sont causés par une mauvaise prise de décision du pilote, parce que chaque accident doit être regardé sous trois axes. Le premier, évidemment, étant l'homme. Le deuxième étant la machine.
L'homme ou la femme, Jean, parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Hein? Oui.
Heureusement, ça sous-entend la femme, parce que oui, effectivement, j'ai connu au cours de ma carrière plusieurs femmes, et elles sont d'excellentes pilotes, parce que très minutieuses. Après l'homme ou la femme, il y a la machine, à savoir, y a-t-il des problèmes mécaniques? Et après ça, il y a l'environnement, à savoir les conditions météorologiques. Et tous les accidents dont on vient de parler, donc celui en Russie ce matin, heureusement, c'était de jour. Heureusement, les conditions de vol étaient bonnes parce que on ne peut pas s'écraser sans avoir de motorisation dans un temps où c'est nuageux et couvert. Alors, bonne fortune pour les pilotes de ce matin. Au moins, ils voyaient ce qui s'en venait devant eux. Et heureusement, l'avion ne s'est pas fracturé. Mais je suis certain qu'au cours des prochaines semaines et mois, ces gens-là recevront les décorations requises.
Et c'est justifié et mérité.
Oui, et pour nous, dans l'industrie, il y a aussi un certain commandant, Al Ains, qui a posé son DC-10, qui avait eu une explosion de moteur, et le numéro 2, je pense, sur un trimoteur, et ça avait coupé tout d'alimentation hydraulique vers ses contrôles de vol. Il était parti de Denver, il s'en allait vers Philadelphie. Et c'est un accident qui a servi énormément à toute la communauté pour apprendre à mieux travailler en équipe, parce qu'il y avait même un pilote instructeur en classe affaires qui est venu assister le commandant Haynes et ses deux autres copilotes et ingénieurs de vol. Et ils avaient réussi à poser leur avion à CEO City. On peut le voir sur Internet. On n'a qu'à taper le vol United Airlines à CEO City. Je pense que le numéro du vol était... j'ai un oubli par rapport à ça, mais donc United Airlines, si on regarde, c'est sur Internet et c'est très impressionnant.
Merci Jean Lapointe, pilote et expert en aviation. Toujours un plaisir, Jean.
À bientôt.
À bientôt.